Salut! Bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Je suis Alison Allard et chaque mois, je pars à la rencontre d'une ou d'un professionnel de l'éducation. Dans ce 30e épisode, vous allez entendre Véronique Decker. Véronique a été enseignante puis directrice. Avec Audrey Chenu, elles ont écrit le livre « Entrée en pédagogie féministe » aux éditions Libertalia. Dans cet épisode, on parle du livre, de son expérience dans l'enseignement, des réflexions sur l'égalité qu'elle a menée avec son équipe et de la boxe éducative. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Alors, je m'appelle Véronique Decker, j'ai été institutrice pratiquement toute ma vie et directrice d'école maternelle pendant 7 ans et directrice d'école élémentaire pendant 19 ans. Et je suis retraitée.
Et où ça ?
J'ai été institutrice à Montreuil. Et puis, quand je suis devenue directrice d'école, je suis arrivée dans le quartier de l'Abreuvoir à Bobigny, dans une des dernières écoles entièrement en amiante qui est en cours de démolition là. Et puis j'ai été ensuite dans une autre école de Bobigny, une école élémentaire qui s'appelle l'école Marie Curie qui est dans la cité Karl Marx à Bobigny.
Avec Audrey Chenu, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Entrée en pédagogie féministe ». Et je voulais d'abord que tu nous expliques quelle était votre intention en écrivant ce livre ? Qu'est-ce qui vous avait amené à écrire cet ouvrage ? Et quels sont les messages que vous avez envie de transmettre avec « Entrée en pédagogie féministe » ?
En fait, on a travaillé ensemble pendant 8-10 ans avec Audrey, je ne sais plus, enfin plusieurs années. Hein. Maintenant, je suis retraitée, mais on a longuement travaillé ensemble. Et avec d'autres enseignants de l'école, on a vraiment réfléchi à ces questions de l'égalité, filles-garçons, de l'égalité féministe, de l'antiracisme, du harcèlement, de toutes ces questions-là. Et pendant plusieurs années, on a été une vraie équipe, c'est-à-dire de gens qui se réunissaient pour parler vraiment de leurs difficultés ou de la possibilité d'avancer ensemble. Et donc, on a essayé de mettre en place des actions visant à promouvoir l'égalité entre les garçons et les filles, et le tout au cœur d'une cité, on va dire, un peu ghettoisée, dans lesquelles les gens vous disent « Ah mais non, avec un public comme ça, vous n'y arriverez pas ». Alors qu'en fait, si, pour moi, et comme pour Audrey, on n'est pas arrivé à tout faire ce qu'on aurait voulu faire, mais on est arrivé à essayer des choses et à faire avancer réellement la discussion avec les parents, avec les enfants sur ces questions-là. Et donc, à un moment, s'est posé la question de ne pas laisser ce travail partir sans bilan, sans l'écrire. Et on a souhaité l'écrire et l'écrire de manière qui ne soit pas complexe à lire, qui soit plutôt un peu pimpante, qui parte de ce qu'on a fait vraiment et qui ne soit pas un bouquin donneur de leçons genre « Yoreka, il faut que », mais plutôt un livre qui relate la manière dont on s'y est pris pour que les gens puissent se dire « moi aussi, je vais trouver la manière dont je vais m'y prendre ».
C'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lisant. J'avais vraiment cette impression que c'était un livre de prof pour des profs.
C'est exactement ça. C'est un livre d'instit pour des instits et c'est un livre qui dit on n'a pas besoin d'injonctions gouvernementales, on a besoin de réfléchir par nous-mêmes pour devenir nous-mêmes nos propres didacticiens. Audrey et moi, on est toutes les deux des militantes de la pédagogie Freinet, donc de pédagogie coopérative, progressiste au sein de l'école publique. Et c'est un des piliers de la pédagogie Freinet, c'est l'auto-organisation des élèves, mais aussi l'auto-organisation des enseignants. C'est-à-dire de dire, ça n'est pas la relation hiérarchique qui permet aux gens de progresser. C'est au contraire la coopération.
Et est-ce que c'est pour l'ouvrage que vous l'avez appelé Pédagogie féministe, ou alors est-ce que quand vous avez commencé ce travail d'équipe, vous aviez cette intention de pédagogie féministe? Comment ça s'est mis en place, ça?
On avait une intention féministe dans le cadre de la pédagogie Freinet. Et ça s'appelait pas encore dans notre esprit pédagogie féministe. Je pense que c'est important de dire que c'est un axe pédagogique. C'est-à-dire que dans la construction que chacun, que chaque enseignant doit faire de sa propre pédagogie, il doit avoir à l'esprit cet axe-là, comme avoir à l'esprit l'axe antiraciste. Voilà, parce que on doit, l'école publique se doit de défendre un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, il y a encore des dizaines et des dizaines de féminicides. C'est hallucinant qu'on en soit encore là. Donc évidemment, une fois que le gars, il a tué la femme, on n'a pas d'autre choix que de le sanctionner. Mais nous, les pédagogues, on sait que les sanctions ne servent à rien. Célestin Freinet le disait dans un de ses invariants, c'est un pis-aller. C'est-à-dire qu'évidemment, une fois que Marcel a mordu Géraldine, on ne va pas lui dire bravo Marcel, c'est super bien, t'as mordu Géraldine. Donc, tu étais bien obligé de punir Marcel. Mais on sait que ça ne résoudra pas le problème. La résolution, elle est par la voie de l'éducation. La sanction est nécessaire, mais c'est un pis-aller. Ça n'est pas un chemin de construction.
Et pour toi et pour l'équipe que vous constituiez avec Audrey d'ailleurs, est-ce que c'est faisable dans toutes les écoles?
Alors, si nous, on l'a fait dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, parce que non seulement c'était une école de cité, mais c'était une école d'apartheid social. Il y a d'ailleurs un film qui a été tourné qui s'appelle La Cour des miracles. Et La Cour des miracles raconte en vrai l'histoire de notre école, c'est-à-dire la construction d'un apartheid social dans une cité de banlieue. On a fait tout ça tout en ayant autour de nous une rénovation urbaine qui faisait écrouler les tours. On vivait dans la poussière, dans un truc absolument invraisemblable. Et notre force, c'était seulement d'être une équipe et d'être une équipe qui partageait des valeurs politiques, pas seulement des valeurs pédagogiques, mais des valeurs politiques, c'est-à-dire sur la nécessité d'un progrès social, que l'école a pour but de contribuer à construire un progrès social. Pas la réussite des élèves, le but de l'école. Le but de l'école, c'est la réussite de tous, c'est-à-dire un progrès de génération en génération.
Et ça, pour nous situer dans le temps, c'était en quelle année?
Eh bien, moi, je suis arrivée dans cette école en 2000. Je l'ai quittée en 2019. Et Audrey a dû arriver en 2010, peut-être, ou en 2011, je ne sais plus. On aura travaillé 8-9 ans ensemble. L'arrivée d'Audrey a beaucoup apporté. Parce que dans l'équipe, il y avait des militants pédagogiques, des militants syndicaux, des militants écolos. Il y avait toutes sortes de militants de tas de causes différentes, ce qui nous permettait de nous engueuler quand même à peu près toute l'année. Mais l'arrivée d'Audrey, c'est l'arrivée vraiment d'une militante féministe, dont l'axe de militantisme principal est sur la question. La question du genre, la question de l'égalité des sexes est la première préoccupation militante d'Audrey. Et donc, de ce point de vue-là, elle va beaucoup nous apporter, comme sur les questions sportives, parce qu'elle a une pratique sportive de haut niveau, et donc elle va modifier notre regard sur les questions de la place du sport dans la construction de l'égalité filles-garçons.
Oui, on en parlera un peu plus tard dans l'interview, mais tous ces axes par rapport à la boxe, en effet, c'est quand même assez impressionnant, comme j'ai l'impression que ça a imprégné complètement votre école.
Alors, on a réussi à avoir, ça c'est les merveilles du REP, hein, c'est qu'à des moments, on peut avoir des budgets que n'ont pas les autres quand même. Et donc, à un moment, je ne sais plus par quel biais, on a réussi, peut-être le biais de l'accompagnement éducatif. Donc, ils ouvrent des ateliers d'accompagnement éducatif et Audrey propose de faire un atelier d'accompagnement éducatif autour de la boxe. Et elle veut faire un atelier de boxe pour les filles parce qu'on a constaté que beaucoup moins de filles que de garçons sont inscrits à des clubs sportifs. Et donc, Audrey rédige un projet sur l'accompagnement éducatif dans un atelier non mixte de filles. Et ce projet est refusé par l'inspectrice, qui dit que non, dans l'école publique, tout doit être fait en mixité. Et moi, je comprenais bien la préoccupation d'Audrey, qui était de restaurer une égalité. Bon, mais l'inspectrice ne la comprend pas. C'est pas grave, il faut pas toujours s'affronter avec l'inspection. À des moments, il faut louvoyer. Et donc, l'équipe rediscute de ça. Et dans l'équipe, il y a quand même des gens qui disent « Oui, sur le fond, statistiquement, tu as raison. Mais si on regarde tel ou tel élève, on a des élèves roms qui n'ont pas d'adresse, donc qui peuvent être inscrits à aucun club sportif. Donc finalement, eux aussi pourraient profiter de l'atelier. » On a un élève handicapé qui est très timide, qui est très inhibé, et lui aussi pourrait bénéficier de l'atelier de boxe. Et là, on pourrait concilier l'exigence de l'inspectrice avec notre axe de rétablissement de l'égalité. Parce qu'il y a l'égalité filles-garçons, mais il y a aussi l'égalité entre les Français et les immigrés sans papier. Et il y a l'égalité entre les enfants ordinaires et les enfants avec des troubles de la construction. Et donc, Audrey a accepté cette idée. C'est-à-dire que d'un atelier non mixte pour rétablir l'égalité filles-garçons, ça va devenir un atelier toujours non mixte parce que réservé aux élèves qui ne peuvent pas facilement s'inscrire au sport. Et donc, la limite bascule d'une limite de genre à une limite comprenant tous ceux qui sont maltraités sur cette question. Et moi, j'ai trouvé que finalement, l'interdiction de l'inspectrice nous avait amené à réfléchir plus loin.
Et comment ils ont été perçus par les élèves, ces ateliers? Que ce soit ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé?
Alors, d'abord, il y avait d'autres moments où les enfants pouvaient faire de la boxe, hein, dans l'école avec Audrey, puisqu'on avait aussi des ateliers dans le cadre de l'étude. On avait une étude qui faisait moitié activité sport ou culturelle, moitié activité révision. Et donc, dans ce cadre-là, d'autres enfants pouvaient faire boxe avec Audrey. Et quand on a fait des présentations aux parents, on a présenté le travail des deux ateliers en même temps. En fait, ils étaient un peu enviés, les enfants qui avaient été pris dans les ateliers par les autres. Au départ, les filles étaient très réticentes à cette histoire de boxe. Et puis, elles se sont prises au jeu parce que, en fait, c'est très marrant, hein, de boxer. C'est pas très féminin au sens de l'éducation qu'on donne aux filles, mais le fait d'essayer de toucher quelqu'un, parce que Audrey n'enseignait pas à frapper. C'est de la boxe éducative, donc le jeu, c'est d'aller toucher l'autre. Hein. Ce n'est pas de lui faire mal. On le touche avec un gant de boxe, mais il ne s'agit pas de décharger une agressivité violente, mais au contraire, d'exprimer avec le corps une certaine retenue, au fond. Eh bien, c'est très marrant. Et du coup, un certain nombre de filles et de garçons ont découvert qu'il n'y avait pas forcément de lien entre le mot « boxe » et le mot « violence », que ça pouvait être une activité, au contraire, de maîtrise de son propre corps, de maîtrise de ses émotions, et qui pouvait être très agréable. D'autant qu'on avait un sac de sable, et donc la possibilité, là, d'aller à fond sur le sac de sable pour ceux qui avaient envie de frapper à fond.
Et est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent en quoi le sport est important dans cet axe féministe?
Alors, parce que c'est C'est sans doute un des premiers axes dans lequel on différencie très fortement l'éducation des filles de l'éducation des garçons. C'est-à-dire, dès la plus tendre enfance, on va inciter les filles à la maîtrise de leurs doigts en leur donnant des perles, des trucs pour dessiner, pour colorier, des petits trucs à coudre, des toutes petites poupées à habiller, à déshabiller, des poneys à peigner. Et on va beaucoup plus rarement les emmener jouer au ballon, faire du vélo, faire de la course. Donc, toute la motricité qu'on appelle la grande motricité, qui est la motricité de l'alliance du corps et des jambes, va être réfrénée chez la petite fille. Y compris, les parents vont dire oh « Non, monte pas sur le toboggan, tu vas salir ta robe. Non, va pas sur la balançoire, tu risques de tomber. » Voilà, il faut que la fille, elle soit bankable, il ne faut pas qu'elle ait des cicatrices, donc pas de risque, pas de vélo, pas de trottinette, pas de ballon. Voilà. Alors que chez les garçons, on va très fortement encourager la prise de risque et l'audace. L'audace pour grimper, l'audace pour faire du vélo, l'audace pour rouler, l'audace pour courir derrière le ballon et la compétition au sens de challenge, allez, tu vas courir plus vite que papa, voilà. Donc, le sport a une très grande importance dès la maternelle, de façon à restaurer l'audace corporelle chez les filles, dont on sait aujourd'hui, par exemple, que c'est le principal axe de la lutte contre le viol. La plupart des femmes ou des jeunes filles violées le sont parce que physiquement, elles sont tétanisées par leur agresseur. Non pas qu'elles ne pourraient pas lui résister physiquement, mais qu'elles ont tellement été éduquées à ne pas le faire qu'elles ne parviennent pas à mobiliser ses ressources physiques au moment où elles en auraient besoin. Donc, restaurer toutes les compétences de la grande motricité chez les filles, leur apprendre à faire du vélo, à monter sur les toboggans, à grimper sur les échelles, à courir, à faire des courses de haies, à jouer au ballon, à faire des sports d'équipe, à tomber et à se faire des blessures sur les genoux. Tout ça fait partie d'une éducation féministe. Pendant ce temps-là, pour les garçons, leur apprendre à faire un puzzle jusqu'au bout, à faire des piquages et à passer le lacet du début à la fin du piquage, à se rhabiller en se levant du dortoir de la maternelle. Oui, tu as deux jambes, ton slip a deux trous, tu vas mettre une jambe dans chaque trou, la première jambe dans le premier trou, la deuxième, et dire à l'agent de service, non, tu l'aides pas à se rhabiller. Pas tout de suite. Tu l'aideras tout à l'heure, quand il aura essayé un peu. Il va arriver à mettre son pied dans la chaussette, même si c'est un peu n'importe quoi au début. Eh bien, on va lui laisser le temps d'essayer de mettre son pied dans sa chaussette. Alors qu'en fait, enlevé de dortoir, la majorité des filles arrivent à se rhabiller et la majorité des garçons n'y arrivent pas. Alors, soit on pense que le chromosome X améliore les compétences du rhabillage, soit on pense que les parents simplement ont appris à leur fille à enfiler ses vêtements et n'ont pas appris aux garçons à le faire. Donc, c'est dans cette attention aux difficultés que peuvent avoir l'un ou l'autre genre à différentes activités. Et ce n'est pas seulement une attention pour les filles. Hein. Parce que les garçons, ils ne sont pas obligés d'être incapables. Voilà, la maternelle peut contribuer à les rendre plus capables, ne serait-ce que d'habiller, de déshabiller un bébé. Tu vois, des fois, les enfants, ils disent « je joue à la maman ». Et moi, je disais, mais tu joues au papa aussi. C'est important que les papas, ils savent habiller leur bébé et changer une couche. Donc, tu vas pouvoir jouer au papa. Et c'est important que les petits garçons se sentent autorisés à faire les papas. Donc, tu prépares le biberon de la poupée, tu lui donnes son biberon, tu la mets dans la poussette, tu l'emmènes au parc. Voilà, tout ça, c'est des activités de papa.
C'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le livre, c'est j'ai pas l'impression que vous aviez des activités concrètes à donner, mais en fait, c'était vraiment dans cette attention qui est portée tout le temps et qui donne comme ça, ça a l'air presque facile d'aborder ces questions et ça peut se placer à tous les moments de la scolarité.
Oui, parce que c'est une fois que tu as pris les plis, eh ben, ça devient naturel. Ça rentre dans l'activité naturelle de la classe. Par exemple, nos élèves avaient tous des petites responsabilités dans la classe et dans l'affichage qu'on en faisait au mur, on a genré les noms. C'est-à-dire, il y avait le facteur et la factrice, l'électricien et l'électricienne, le balayeur et la balayeuse. Et tous les métiers, on avait trouvé un nom féminin pour les désigner et un nom masculin pour signifier aux enfants que tous les métiers seraient faits par tout le monde. Et qu'il n'y avait pas des métiers de filles et des métiers de garçons, mais qu'il y avait des métiers pour chacun d'entre nous et qu'à la maison, il fallait tout partager.
Et est-ce que toute l'école participait à ce projet?
Alors, toute l'école en discutait, en conseil de maître, et on est arrivé quand même que sur l'éducation affective et sexuelle, tous les CM1, CM2 faisaient les séances d'éducation affective et sexuelle. Après, est-ce que d'une classe à l'autre, la tension était la même? Sûrement pas. Je pense qu'il y avait toujours des gens plus militants de certaines questions que d'autres. Mais dans les espaces partagés, comme la cour de récréation, le préau de l'école, on a eu quand même une vraie réflexion sur la place du foot, la place des cordes à sauter, la question des cartes Pokémon, enfin, toutes ces questions des jeux libres des enfants et de leur sexualisation précoce, c'est-à-dire que certains jeux soient considérés comme jeux de garçons ou jeux de filles, ça a amené dans l'équipe des questionnements et des temps de réflexion.
Dans le podcast, j'ai interviewé déjà des profs, mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a été directrice d'école. Pour toi, comment en tant que directrice, directeur d'école, on peut insuffler cet engagement féministe?
Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il me semble que des portes qui étaient ouvertes à l'époque où j'enseignais sont en train de se refermer. Moi, j'ai le sentiment d'avoir eu une bien plus grande liberté que les collègues qui enseignent aujourd'hui. Et j'ai vu cette liberté se refermer progressivement. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on nous formait 3 ans à l'école normale. Donc pendant 3 ans, on était payé et on avait 30 heures de cours qui ne portaient que sur notre métier d'instit. C'était vraiment une formation très professionnalisante. Et ensuite, sur le terrain, il y avait une relative confiance. On pouvait emmener les gamins à peu près n'importe où sans faire une pléthore de papiers. Aujourd'hui, il y a plus de temps à faire des papiers que de temps pour réfléchir réellement au projet pédagogique. Et c'est pour ça que j'ai écrit mes mémoires, parce qu'avant d'écrire ce livre-là, j'ai écrit 3 bouquins pour raconter ma vie. Et en fait, j'ai écrit mes mémoires quand j'ai réalisé à quel point ce que j'avais vécu était en train de disparaître et qu'il fallait l'écrire pour rappeler à la génération suivante que ça avait été possible. Et donc, comme ça avait été possible, il fallait arrêter de dire « Ah mais non, ça n'est pas possible ». Voilà ce que j'entendais tout à la fin de ma carrière. on ne me cessait de me dire « Ah, mais ça n'est pas possible ». On me disait « Il n'y a plus de médecins scolaires ». Comment ça, il n'y a plus de médecins scolaires? Il n'y a plus de médecins scolaires, mais pourquoi? En 1946, la France se relevait de la Deuxième Guerre mondiale. On avait encore des villes qui avaient été bombardées, qui étaient écrasées sous terre. Les habitants de Brest dormaient sous la tente encore. Hein. Brest n'avait pas encore été reconstruite. Tous les enfants avaient une visite médicale chaque année. Aujourd'hui, on n'a même plus de quoi faire une visite médicale à l'entrée au CP et une visite médicale à l'entrée au collège. On n'a plus assez de médecins scolaires pour faire ça. Donc, on nous raconte « Ah, mais vous demandez des choses incroyables, impossibles ». Non, ces choses-là existaient. Moi, j'ai le sentiment qu'à une époque, quand tu devenais directeur d'école, il y avait une certaine confiance, il y avait très peu de papiers, mais on était formé à ce que les directeurs d'école soient vraiment au contact des parents. Et donc, quand un gamin ne venait pas à l'école, nous, on nous avait appris à aller chez les parents pour aller le chercher. Moi, ce que j'aimais dans le métier de directeur, c'est cette relation humaine, charnelle, avec les enfants, avec les familles. Maintenant, tout est dématérialisé. Tu envoies un email dématérialisé, tu envoies une injonction dématérialisée, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En vrai, la vie des humains, elle ne fonctionne pas en mathématisant toutes les relations. Et je pense que c'est ça dont les gens ont besoin pour avoir confiance dans l'endroit où ils vont mettre leurs enfants. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. C'est en nous voyant faire que les parents comprennent ce qui se passe, ce qu'on fait.
Ça me fait penser que souvent, ce que j'ai comme retour, c'est la crainte de la peur des parents concernant tout ce qui est question d'égalité et question d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que j'aimerais aussi qu'on aborde ce sujet. Et j'ai l'impression, dans ce que tu dis, si on établit une relation de confiance avec les parents, cette crainte de la part des enseignants-enseignantes diminue,
elle diminue,
et la crainte des parents diminue aussi.
Bien sûr. On a toujours plus peur des inconnus que des gens qu'on connaît. Après, il ne faut pas oublier que sur les questions sexuelles, on affronte des forces politiques. On n'est plus seulement dans une question éducative, parce que certes, c'est au programme, mais on sait qu'il existe en France des forces politiques, archaïques, religieuses, qui sont opposées au fait que les enfants aient des savoirs sur les parties génitales, sur la sexualité. Et qu'ils ont une vision d'une pureté de l'enfance qu'il faudrait préserver et qu'on préserverait cette pureté en ne parlant pas d'une partie du corps de l'enfant. Et il faut accepter cet affrontement. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il va exister. Et il faut à la fois rassurer les parents et en même temps tenir fermement les bordures. C'est pour ça que dans le livre, par exemple, moi je dis, et je le donne vraiment comme un conseil, c'est que l'éducation affective et sexuelle, il faut le faire dans un continuum où on a étudié le corps humain. Donc on a étudié la respiration et au moment de la respiration, les parents d'élèves n'ont rien dit. On a fait la musculation. Au moment de la musculation, ils disent toujours rien. La digestion, tout va bien. La construction osseuse, c'est parfait. Et on aborde les questions de reproduction et de sexualité. Et là, tout d'un coup, affolement général. Et tu as des parents qui disent « Oui, mais moi, j'aurais voulu qu'on me prévienne. » Ben, excusez-moi, moi, pour la respiration, vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous prévienne. Donc, est-ce que pour vous, les parties génitales font partie du corps humain? Est-ce que la reproduction fait partie de l'activité humaine? Est-ce que la sexualité fait partie du sens même de la vie? Et est-ce que les questions affectives sont ou non au centre de notre existence? Parce que c'est plus facile de se passer de bouffer que de se passer d'avoir des amis. Si on pense que tout ça est d'égale importance, eh ben tout doit être traité par l'école. Maintenant, la question c'est, est-ce que l'école va enseigner des choses que vous allez juger choquantes? Mais de cette question-là, je veux bien parler avec vous. Est-ce que c'est choquant de dire pénis au lieu de zizi, par exemple? Et est-ce que le jour où l'enfant doit aller chez le médecin, à un moment, il faut quand même qu'il soit capable de dire à un médecin qu'il a quelque chose sur le pénis. Il ne va pas dire « j'ai mal au zizi », quoi. Bon, allô, il y a un moment où sortir de l'enfance, c'est aussi être capable d'utiliser les mots scientifiques qui désignent les parties génitales. Et dans le cadre scolaire, il faut le faire de la manière la plus froide possible. Comme on avait fait le genou, la cheville, le coude, on va faire l'anus, le pénis, la vulve. Et il faut expliquer aux parents que quand l'enfant dit « l'oncle Marcel m'a touché », eh bien, si l'oncle Marcel a touché l'épaule, ce n'est pas la même chose que si l'oncle Marcel a touché la vulve. Et qu'il y a donc un élément de la protection des enfants d'être capable de désigner ces parties, non pas comme des parties honteuses, mais comme des parties de leur corps, qui font partie de leur corps, de façon à pouvoir être protégés en disant ce qui leur arrive et en étant compris. Parce que la petite fille qui dit « l'oncle Marcel a touché ma vulve », normalement ses parents grimpent un peu au rideau.
Cet enseignement, vous le donniez dès l'école maternelle ?
Alors, dans l'école maternelle, en fait, moi, ce que je faisais, c'est on passe aux toilettes ensemble. Dans les interactions langagières ordinaires que j'ai avec les enfants, je leur disais « tu as fait caca, prends du papier pour essuyer ton anus ». Tu as fait pipi, prends du papier pour essuyer la petite goutte qui est restée au bout de ton pénis avant de te rhabiller. Mais dans une interaction langagière, on va dire ordinaire. Et puis, quand les enfants ont parlé des bébés, parce qu'en fait, en maternelle, les enfants ont très fréquemment des petits frères et des petites sœurs. Et donc, très souvent, on invitait une maman avec un bébé bien frais, à venir le changer, l'allaiter dans la classe, préparer le biberon, pour que les autres enfants qui n'avaient pas de petits frères et de petites sœurs puissent voir. Et les enfants ont à ce moment-là de multiples questions. Alors, en maternelle, on ne va pas leur enseigner le Kama Sutra, voilà. Mais, par exemple, ce qui est très important, c'est d'être au plus près de la science. Donc, il n'y a pas papa qui met une graine dans le ventre de maman. Papa a la moitié d'une graine et maman a l'autre moitié. Cette petite graine s'appelle une cellule. Et c'est cette première cellule qui va se diviser, se diviser, se diviser pour faire un noyau de cellules qui progressivement va devenir un bébé avec des cellules de peau, des cellules de muscles, des cellules d'os, des cellules d'yeux, des cellules de cerveau, des cellules de langue, enfin des cellules pour l'oreille. Et ce petit bébé va se former à l'intérieur du ventre de la maman, dans une sorte de petit nid à l'intérieur de l'utérus. Voilà. Et puis, quand le bébé sort, eh ben, l'utérus va s'ouvrir. Le vagin de la maman va s'ouvrir et l'enfant va sortir par la vulve de la maman. Raconté comme ça. C'est-à-dire, je suis dans quelque chose qui scientifiquement est exact, mais je ne vais pas raconter que la pénétration, les fives, mais il m'est arrivé que des enfants abordent ça. Par exemple, la fille, moi, j'ai eu une élève qui savait qu'elle était née comme ça. Elle était très jeune, ça devait être une élève de moyenne section, et malgré ça, elle savait qu'elle était née par FIV. Et les parents avaient mis des mots qu'elle articulait pas forcément bien, mais ils avaient mis des mots sur un début un peu médicalisé pour sa naissance.
Et donc, si je comprends bien, cette éducation, elle faisait entièrement partie de la vie scolaire.
La vie ordinaire, c'est ça qui est important. C'est que ça fasse partie de la vie ordinaire. Et plus ils sont jeunes, parce qu'au collège, je ne suis pas hostile à faire venir une association. Parce qu'au collège, ben, plus on va avancer en âge, plus les mômes vont avoir des questions qui vont être chaudes, voire très très chaudes, voire qui vont froisser les oreilles de certains parents, parce que posées par des enfants venant de familles un peu écartées d'un point de vue éducatif de ce qu'ils font. Mais plus ils sont petits, plus il faut le faire juste dans la vie ordinaire. Et quand ils vont grandir, on va faire des séances plus précises. Nous, on commençait en CM1, CM2 à faire deux séances non mixtes. Et au départ, on causait dans l'entre-soi. On posait, les enfants avaient des petits papiers, ils pouvaient poser plein de questions. On mettait les questions dans un chapeau. Le lendemain, on les réunissait en non mixte et on répondait à leurs questions. Et au bout de deux séances en non mixte, on redémarrait en mixte. Et on donnait aux garçons les questions des filles et on donnait aux filles les questions des garçons. Et donc, les garçons étaient amenés à parler des règles, les filles étaient amenées à parler du sperme. En sachant que, arrivé en CM, la plupart des garçons ont déjà vu un porno. Parce que, en fait, dès que les parents achètent des smartphones, là, il faut que les parents le sachent, hein, la première chose que les enfants vont voir, les garçons en particulier, c'est des sites où on voit des filles à poil, où on voit même du porno relativement hard. On s'est rendu compte que nos élèves avaient des connaissances parfois supérieure aux nôtres. Et c'est important qu'on en parle avec eux pour démystifier, c'est-à-dire pour leur expliquer à quel point la pornographie est très éloignée du réel. C'est bien d'avoir à ce moment-là des séances précises pour répondre aux questionnements qu'ils ont, parce qu'ils commencent à avoir des questionnements précis. Il ne faut sûrement pas apporter des choses qu'ils n'ont pas envie d'aborder.
Il y a quelque chose que j'ai vraiment été à la fois surprise et à la fois j'ai trouvé ça d'une logique implacable, c'est d'avoir construit le déroulé du livre sous forme d'abécédaire. Et alors moi, j'ai relevé quelques lettres, la lettre K pour Kermesse. C'était vraiment un passage et un chapitre que j'ai trouvé intéressant parce que jusqu'à là, dans mes recherches personnelles concernant l'égalité à l'école, je ne m'étais pas posé cette question de l'égalité concernant la kermesse, la fête d'école. Je me demandais, moi, à quel moment vous aviez voulu amener cet axe féministe dans la kermesse? Qu'est-ce qui vous avait amené à penser cette kermesse avec ce point de vue féministe? Et qu'est-ce que vous aviez mis en place dans l'école?
Alors, en vrai, on n'a jamais vraiment mis en place des choses. On y a réfléchi, on y a pensé. On s'est pris la tête parce que, évidemment, pour toutes les fêtes d'école et pour toutes les kermesses, il y a des mamans qui font des gâteaux. Au loto, il y a des papas qui filtrent les entrées. Pour le repas de midi à la kermesse, c'est toujours un papa qui va au barbecue. Enfin, donc, nous, on avait essayé de mettre des jeux qui soient le moins genrés possible et d'encourager les parents à ce que les enfants passent sur tous les jeux. Donc, on faisait quand même une petite carte qui faisait qu'il fallait aller à tous les jeux. Parce que sinon, au jeu de tir à l'arc, on avait une bande de garçons qui y restaient en permanence. Ils squattaient le tir à l'arc et personne d'autre qu'eux ne pouvait tirer. Mais on n'a jamais réussi à dégenrer complètement. Voilà. Loin de là. Parce que l'important à la kermesse, c'est que les parents viennent. Et c'est un peu comme au McDo, il faut qu'ils viennent comme ils sont. Et si on met trop de contraintes, comme c'est un bénévolat, ben les parents, ils ne viennent plus. Donc, C'est vrai qu'il faut y penser, qu'il faut avoir ça à l'esprit, mais c'est vrai aussi qu'il faut pas non plus empêcher les gens de venir, parce que les gens qui viennent à la kermesse, c'est souvent les familles les plus éloignées de l'école, et qu'on ne verra peut-être qu'à ces moments-là. On les verra sans doute pas aux réunions de parents où on parle de pédagogie, on les verra sans doute pas au spectacle un peu compliqué. Mais ils viendront au loto et à la kermesse parce que c'est toujours agréable de faire la fête tous ensemble et que là, la question de leur niveau scolaire à eux, n'est pas forcément mise en danger. Et donc, ils viennent comme ils sont. Et c'est ça qui est important. Donc, nous, on doit y réfléchir, mais il faut faire attention de ne pas y réfléchir trop. C'est-à-dire de garder la kermesse comme un moment où tout le monde va être détendu et où tout le monde aura envie de venir. Pas un moment où on va mettre des contraintes sur les... Parce qu'il y a des familles qui sont un peu réac, un peu ringardes, un peu archaïques, hein, dans toutes les écoles. Et donc, on y est attentif, mais on est accueillant avec toutes les familles. Et c'est peut-être être accueillant avec toutes les familles qui doit être le principal axe.
On revient à cette question, comme tu l'as abordée au début, de confiance et de relation en réalité avec les parents des élèves.
C'est comme ça qu'on fait progresser les choses. C'est pas par l'affrontement. Il faut faire attention. On ne fera pas progresser les familles en se les mettant à dos. On fait progresser les familles en tenant des bordures fermement et collectivement, mais toujours avec des relations d'explication, de prise en compte de leurs inquiétudes et de réelles réponses quand ils viennent nous dire quelque chose. C'est-à-dire ne jamais dire « Ah ouais, mais alors c'est la mère de Jessica, elle est chiante, chaque fois qu'on fait un truc, faut toujours qu'elle râle. » Oui, alors peut-être que la maman de Jessica, qui ne travaille pas, a plus de temps que les autres pour venir se plaindre. Peut-être qu'elle nous dit aussi des choses que les autres n'osent pas nous dire. Et en tout cas, notre travail est d'avoir suffisamment de considération pour chaque parent d'élève pour lui répondre précisément, avec des arguments, mais précisément. Répondre aux parents, ça ne veut pas dire qu'on va faire bouger les lignes.
Oui, merci pour ta réponse, Véronique. Là, j'ai fait le tour, moi, de toutes les questions que j'avais préparées, mais je voulais savoir s'il y avait un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou s'il y avait, je ne sais pas moi, un conseil particulier que tu voudrais dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent.
Oui, je pense qu'il faut être très attentif aux jeunes enfants parce que les jeunes enfants n'ont pas une claire conscience de la différence entre le sexe et le genre. Ce n'est pas très clair pour eux à la maternelle ce que c'est un homme, ce que c'est une femme, où sont les différences. Pour eux, les caractères apparents vont submerger les caractères intrinsèques. Donc pour eux, une femme, c'est quelqu'un qui a les cheveux longs, c'est quelqu'un qui met du maquillage, c'est quelqu'un qui s'occupe des bébés. Enfin voilà, ils vont donner des caractéristiques de genre qui peuvent nous sembler archaïques, mais qui sont simplement les caractéristiques visibles telles qu'ils les voient dans la société dans laquelle ils vivent. Et il faut faire attention à ne pas dégenrer. Alors que ces concepts de genre ne sont pas installés. Il faut quand même qu'ils construisent ce qu'est socialement le genre pour pouvoir construire ce qu'est physiquement la différence sexuelle, qui n'est pas très claire pour eux. D'autant que moi, quand j'étais petite, on mettait tout le monde à poil, hein, dans le même bain. La pudeur sociale était beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. La lutte contre la pédophilie a envoyé une pudeur sociale qui est inconnue dans les années 60 jusqu'aux années 80. On voyait plein de mômes à poil sur la plage, on me mettait dans la même baignoire que mes cousines cousins. Hein. Donc, j'ai vu des gamins, des garçons à poil, avant d'en voir un à poil pour des relations personnelles avec moi. Bien, bien avant, je savais que les pénis des garçons pouvaient être très différents, par exemple en taille et en forme. Aujourd'hui, la pudeur sociale est devenue telle que les gamins ont parfois aucune image, mais aucune. Ils n'ont jamais vu leurs parents à poil, ils n'ont jamais vu leurs cousins à poil, donc ils n'ont aucune image de comment c'est. Et si on déconstruit trop vite, trop tôt, sans laisser le temps de construire les choses socialement, on peut être contre-productif. Il faut juste être attentif à ça. Donc, déconstruire le côté social, de dire non, ben non, les papas, des fois, ils poussent la poussette, les papas, ils font pas que vider les poubelles, enfin voilà. Peut-être que ton papa à toi n'est pas complètement au point, mais laisser aux enfants l'idée qu'il y a des hommes et des femmes, qu'on est un animal sexué, et de leur parler de sexe, pas uniquement sur l'humain. C'est très important de parler aux enfants de la maternelle, du pistil et des étamines, et de leur dire que les fleurs ont un sexe, qu'il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles, ou des parties mâles et des parties femelles dans la fleur, de façon à imaginer que il existe une reproduction sexuée bien au-delà de la sexualité humaine. C'est un moyen d'accepter pour les enfants qui sont anxieux, parce que des parents transmettent parfois une énorme anxiété autour de ça. Et pour lever cette anxiété, il faut leur montrer à quel point c'est normal pour le coq et la poule, le taureau et la vache, le coquelicot pistil, le coquelicot étamine. Voilà.
Merci Véronique, et tu me fais penser justement à quelque chose que j'ai écrit en t'écoutant au fur et à mesure et je t'ai pas posé la question. Dans les différentes interviews, on parle de la formation des enseignants, des enseignantes. C'est vraiment le sujet qui revient énormément et d'un manque de formation, que ça soit dans la formation continue ou dans la formation de base des instits concernant les questions de genre. Et je voulais savoir, vous, dans votre école, qui vous avez formé?
Alors, Audrey a participé aux ABCD de l'égalité. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, on a mis le travail qui a été fait par la commission à laquelle Audrey a participé. Donc, à la fin du livre, on trouve tout un questionnaire qui permet aux instituts de s'interroger sur les pratiques. Ce questionnaire n'a été écrit ni par Audrey ni par moi, mais par un groupe qui s'est réuni à l'époque des ABCD de l'égalité, et qui avait fondé ce questionnaire sous l'égide d'un prof qui s'appelle Geneviève Guilpin, qui est prof à l'ESPE du 93. Et cette prof nous a autorisé à publier ce travail, qui était un travail collectif que moi je trouvais extrêmement pointu et intéressant, dans l'idée que il faut se questionner pour pouvoir mettre de l'égalité du matin au soir dans la classe. Et que, est-ce que je donne plus la parole aux garçons qu'aux filles? Est-ce que je tolère plus que les garçons soient agités que je ne le tolérerais des filles? Enfin voilà, tout ce travail-là. La question de la formation des enseignants, c'est une question qui est dramatique, c'est-à-dire que pour détruire l'école publique, parce que c'est ça qui est en train de se passer, hein, les différents gouvernements ont décidé de détruire la formation des enseignants. Et moi, j'ai bénéficié de 30 heures pendant 3 ans de formation. 30 heures par semaine, fois 52 semaines, pendant 3 ans. Et aujourd'hui, après la suppression totale par Sarkozy, donc ça a baissé, baissé, baissé. Aujourd'hui, on est remonté à une demi-année, à peu près, de formation initiale. Évidemment, c'est insuffisant. On donne 10 ans de formation en médecin, Comment peut-on imaginer qu'on va confier des êtres humains aussi fragiles que des enfants à des gens qui ont une demi-année de formation? Parce que, qu'on ne m'explique pas que la licence est une formation à devenir enseignant. Et on avait ensuite 36 semaines au cours de notre carrière de formation continuée. Donc, tout ça a disparu. Et aujourd'hui, le gouvernement en est même à dire qu'il faudrait qu'au bout de 10 ans de métier, on arrête d'être un stit pour pouvoir en mettre des encore moins formés. C'est une absurdité. Il faut former les enseignants longuement et ensuite les garder enseignants toute leur vie. Parce que l'argent qu'on a mis dans leur formation, il faut qu'on le retrouve. Pour être enseignant, il faut être extrêmement sécurisé sur les savoirs de base. Il faut être capable de reconnaître un érable d'un boulot, une grenouille d'un crapaud. Il faut connaître toutes ces tables de multiplication. Il faut savoir conjuguer sans erreur et sans effort. Il faut pouvoir corriger des textes d'enfants sans laisser la moindre erreur d'orthographe. Et être capable, dans les mots à variables, de distinguer une préposition d'une conjonction de coordination. Voilà. Ça fait partie des savoirs de base. Mais il faut aussi connaître ce qu'est la psychologie de l'enfant. De façon à savoir qu'une classe de 3-4 ans, ce n'est pas une classe à qui on va faire cours. Ça n'existe pas de faire un cours dans une petite section. Que nenni, si on arrive à faire une ronde, en début d'année, on est content. Surtout s'ils ne partent pas tous en pleurant leur mère à droite ou à gauche. Voilà, c'est ces compétences-là, pour s'occuper d'enfants qui ont entre 3 et 16 ans, puisque les instituts vont jusqu'en SECPA, suppose une formation longue, pointue, en didactique, en pédagogie et aussi en psychologie. Et donc, ce n'est pas la formation aux questions de genre, c'est la formation en tout qui est catastrophique, en tout, et qui fait qu'on se retrouve même avec des gens qui abordent des questions de genre avec des âges d'élèves où c'est pas sûr qu'il faudrait s'y prendre comme ça. Voilà. Parce que les reconnaissances en psychologie de l'enfant ne leur permettent pas d'ajuster leur enseignement. Il faut être capable de s'ajuster en permanence et de ne pas répondre aux questions que les enfants ne se posent pas. C'est comme pour le Père Noël. Quand les enfants demandent « Est-ce que le Père Noël existe ?» Moi, je réponds toujours « Il existe dans le cœur de tous ceux qui y croient. » Et comme ça, j'ai fait une réponse qui est scientifiquement exacte, qui ne met pas l'enfant dans un double bint entre ses parents et moi, et qui en même temps lui dit qu'il s'agit d'une croyance. Il existe dans le cœur de ceux qui y croient. Voilà. Et il faut être attentif à ça. On n'est pas là pour brutaliser les enfants. Les enfants vont grandir. Et petit à petit, ils feront la part entre ce que racontent leurs parents, ce que racontent leurs grands-parents, ce que racontent le maître et la maîtresse. Et de cette part-là, de notre part à nous, la seule chose qui soit très importante, c'est qu'on soit toujours exact du point de vue de la loi et du point de vue de la science. Quand les enfants me disent « mais c'est interdit d'être homosexuel dans ma religion », et moi je ne sais pas, ce que je te dis moi, c'est que dans la loi en France, ça n'est pas interdit. On a absolument le droit de se marier avec un homme quand on est un homme ou avec une femme quand on est une femme. Ça, c'est ce que dit la loi. Après, ce que dit la religion de tes parents, tu poseras la question à tes parents. Ça n'est pas à moi de te répondre. Et je ne vais pas m'affronter des connaissances religieuses archaïques. Même si je pense qu'elles sont archaïques, c'est à l'enfant de les affronter. Ce n'est pas à moi. Moi, je lui dis la loi, je lui dis la science, et je le laisse se démerder avec ses parents. Si ses parents ne le tapent pas, ne le violentent pas, voilà. Hein. Et parfois, je leur dis, la loi est injuste. Hein. Vous verrez quand vous serez en CM, plein de fois dans l'histoire, les gens se sont révoltés parce que la loi était injuste, l'esclavage était autorisé, les enfants pouvaient aller travailler dès 7-8 ans. Donc, à des moments, quand la loi est trop injuste, les gens se révoltent contre la loi. Et vous étudierez en CM des révolutions, des révoltes, où les gens se sont levés contre la justice. Voilà, mais je ne leur dis pas, c'était bien, c'était pas bien. Il ne faut pas oublier que dans la classe, il y a des enfants de parents croyants, il y a des enfants de parents de différentes opinions politiques, et qu'on aime ou non ces opinions, les enfants, eux, doivent se sentir bien dans la classe. On ne peut pas se venger sur les enfants du fait que les parents... Par contre, quand les parents disent des choses du type « je t'interdis de donner la main à un noir ou à un rom », moi, je réponds à l'enfant, ça, par contre, c'est interdit par la loi. Tes parents, ils t'ont dit quelque chose qui n'est pas légal. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais je vais leur téléphoner pour leur dire que ce n'est pas légal. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Parce que nous, les maîtres et les maîtresses d'école, eh ben, on est obligés de faire des choses légales quand même dans l'école. On ne peut pas faire des choses qui sont illégales. Donc, on ne peut pas autoriser les enfants à faire des trucs illégaux. C'est cette part-là qui... pour laquelle la relation pédagogique, c'est une relation d'influence. L'autorité pédagogique, c'est une relation d'influence. Mais c'est une influence dont on ne doit pas profiter. C'est-à-dire que cette influence, elle doit accompagner le flux de la vie. Elle ne doit pas devenir une relation d'emprise. Et il faut toujours être attentif à ça. Et dans l'éducation féministe, comme dans l'éducation contre l'homophobie, on sait qu'on contre l'influence d'une certaine famille. On se doit de ne pas écarteler les enfants. On a une relation d'influence qui doit s'appuyer sur des faits patents. Tu vois. Moi, il y a des parents qui m'ont dit, si vous parlez d'homosexualité, ben, si ça se trouve, mon fils va devenir homosexuel par votre faute. Et je lui répondais qu'il y a 50 ans, on n'en parlait pas. Et pourtant, des tas de gens étaient déjà homosexuels et étaient juste obligés de se cacher. Voilà. Mais ce n'est pas toujours simple. Hein. Ce n'est pas toujours simple. Des fois, on a aussi envie de dire nos idées. Mais c'est la délicatesse qui compte. Parce que les enfants doivent être respectés au milieu de tout ça.
Merci Véronique. Merci pour cet entretien.
C'était le 30e épisode de Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Véronique Decker pour cette interview. Je vous conseille vraiment de découvrir le livre « Entrée en pédagogie féministe » aux éditions Libertalia. On se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de podcast. Maternelle Dégenrée, c'est aussi des ateliers à destination des enfants de maternelle, les ateliers COCOS. Ainsi que des présentations, discussions en direction des adultes. Toutes les informations se trouvent sur le site internet maternelledégenrée.fr. Pour suivre l'actualité de Maternelle Dégenrée, inscrivez-vous à la newsletter. Elle est envoyée chaque dernier lundi du mois. On y trouve les dates des ateliers, des anecdotes sur les épisodes du podcast et des bons plans. À bientôt!